Palabre
en forêt,
l'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts sévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Barthès.
107 FM.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission de Palabre en forêt. Bonjour Margot.
Salut, salut.
Bonjour Léo, notre technicien son préféré.
Salut, salut.
Et bonjour à Émeric, Émeric Sulmont, garde-moniteur du Parc National.
Bonjour à tous.
Voilà, qui est pour cette émission-là en direct de son téléphone, voilà. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet eh bien, qu'on aurait dû aborder peut-être il y a bien longtemps, le sujet du roi de la forêt. Mais qui est-ce ? Qui est le roi ?
Le cerf.
Le cerf, eh oui. En cette période de fin de brame et durant cette période automnale, on va parler du roi des forêts ou appelé aussi le fantôme des forêts. Voilà, et donc on va se lancer sans plus tarder et on va essayer de tout vous dire et on va parler aussi de ses enjeux. Alors Margot, décris-nous un petit peu cet animal majestueux.
Alors le cerf. Donc, il s'appelle cerf élaf, si on veut dire tout son nom. C'est le plus grand herbivore de nos forêts. Donc, au niveau de sa taille, il peut aller jusqu'à 1,40 m au garrot. Donc, quand on prend en compte la tête et le cou, c'est encore plus grand. Et au niveau du poids, pour le mâle, c'est entre 130 et 250 kg. Et pour la femelle, entre 90 et 130 kg.
C'était une petite forme de petite anecdote. Je voulais demander, est-ce que vous savez pourquoi il est si gros, le cerf ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, mais on n'a pas forcément la réponse.
Et
on peut avoir la réponse quand on va sur des îles, notamment les îles méditerranéennes. Et on s'est aperçu qu'on trouvait dans les fossiles des cerfs nains, qui avaient toutes les configurations du cerf élaf, mais tout en nain, nanisé. Quoi. Et ça, c'est lié à l'absence de prédateurs. En fait, un prédateur, quand il est présent, il va pousser ses proies les plus grandes à avoir des tailles de plus en plus grandes et les proies les plus petites à avoir des tailles de plus en plus petites. Et c'est pour ça que dans les îles, on va trouver des rats géants et des cerfs nains. Donc c'est un peu grâce, entre guillemets, au loup notamment, que le cerf a cette taille beaucoup plus importante qu'un loup, de manière à mieux se protéger.
Stratégie
de
survie.
C'est des choses courantes, en fait, dans les relations proie et prédateur. Okay. Voilà, c'est une parenthèse fermée.
Et du coup, le cerf qu'on retrouve en France et qu'on retrouve aussi chez nous, dans les Cévennes, il a une durée de vie assez variable qui peut être entre 12 et 18 ans, ça varie en fonction des sources. Donc ça a quand même une longévité assez importante. Et ce qui est intéressant sur cette espèce, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel assez marqué. C'est-à-dire qu'en fait, entre le mâle et la femelle, il y a beaucoup de différences physiques, pour ainsi dire. Donc la femelle qu'on appelle la biche, et elle ne porte pas de bois, alors que le mâle, lui, on connaît bien le cerf avec sa belle ramure assez caractéristique. Et quand on parle de la biche, ça peut être intéressant d'évoquer aussi le chevreuil, qui est un autre ongulé qu'on retrouve chez nous, parce que si on les regarde rapidement, ils peuvent se ressembler et on pourrait les confondre. Mmh. Alors, pour essayer de les distinguer, il y a quelques petits points qui peuvent nous donner des indices. Tout d'abord, le chevreuil, il est beaucoup plus petit. Il a un poids d'environ 25 kg, alors que la biche, on a dit que c'était entre 90 et 130. Donc voilà, c'est vraiment un petit, plus petit spécimen. Il a le museau plus court, donc la biche, elle a un museau plus long. Et puis, ce qui est surtout caractéristique, c'est que chez le chevreuil, il y a des taches blanches qui sont très visibles, alors soit en forme de cœur, soit de haricot. Donc si vous voyez les fesses d'un chevreuil, il aura les fesses toutes blanches, donc soit en forme de cœur ou de haricot. C'est assez rigolo. Et tant qu'on parle de la biche, en termes un peu techniques pour parler des différents stades de cette espèce, il y a aussi le daguet, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, qui est en fait un jeune cerf qui porte ses premiers bois, donc un peu un ado, quoi.
Un jeune homme.
C'est ça. Mmh. Le cerf adulte, donc celui qui a ses bois, le mâle viril, il a un son assez particulier, que vous connaissez peut-être, et qu'on appelle le brame du cerf. le brame du cerf, hein, son cri caractéristique qui fait en période de rut. Et qu'il n'est pas rare d'entendre pas loin de chez vous. Si vous habitez pas loin d'une forêt, en saison automnale, vous pouvez entendre ce cri assez caractéristique assez facilement. Et une autre caractéristique du mâle, donc autre que le brame, on a parlé des bois et on voulait un peu vous en dire un peu plus sur les bois parce que c'est quand même assez particulier en fait. Donc les bois du cerf qui sont de formation osseuse, donc en fait c'est la même matière que les os et qui tombent à la fin de chaque hiver ou au début du printemps. Et à partir du moment où ils sont tombés, ils repoussent super rapidement à plus de 1 cm par jour. Et au début, ils sont enveloppés d'un velours protecteur. Qui va en fait finir par tomber.
Oui.
En fait, les cerfs, ils vont se frotter aux arbres. Mmh. Et en fonction de là où vit le cerf, dans quelle région de France, par exemple, on n'a pas les mêmes essences. Et ce qui fait que le fait, l'arbre à laquelle il va se frotter va donner une couleur caractéristique à ses bois. Donc, s'il se frotte à des charmes ou à des chênes ou à des frênes, il aura des couleurs de bois caractéristiques.
C'était pour parler de la folie ou de la ruée vers les bois de cerf qui touche un certain nombre de passionnés qui courent à partir de février, mars, avril, au moment où les cerfs viennent de perdre leurs bois, ils commencent à farfouiller les forêts, les zones de remise des cerfs en hiver, de façon à trouver ces fameux bois cerfs, avec une volonté toute particulière de trouver la paire. Ce n'est pas toujours évident, puisqu'il ne les perd pas en même temps tous les deux, mais assez rapidement en général. Du coup, il y a toute une folie qui tourne autour de cette recherche de bois, pas toujours très déontologique au niveau respect des zones un peu de tranquillité. Mais bon, ça existe en tout cas. Et ce qui est très amusant, c'est de voir que c'est quelque chose qui est très ancien et auquel tourne un grand nombre de mots de vocabulaire pour décrire ces bois qui peuvent aller jusqu'à 18 corps. Enfin, il y a un très grand nombre de mots pour décrire toutes les ramifications. Et je vous en donne juste un aperçu parce que c'est assez dingue. On parle d'empaumure, de trochure, d'enfourchure, de perlure, de pierrure, de mérin, de nodulation rugueuse, de sillon linéaire, d'andouillé, de surandouillé, de chevillure. C'est infernal. Enfin, il y a beaucoup de mots pour décrire. Et il y a même des concours où il s'agit d'avoir le plus beau bois sous un certain nombre de critères qui sont des mesures de tous ces mots que j'ai employés. Je ne saurais pas vous dire très, très précisément à quoi correspond quoi, mais c'est juste dire que voilà, il y a un fort engouement autour du bois de cerf et des trophées, de la description, de la possession de ces bois.
Et on a connaissance de concours chez nous, du coup
Personnellement, moi, j'en connais pas, mais je sais qu'il y a certains trophées qui ont été faits en Cévennes, qui sont parmi les plus importants de France, et qui font que des Cévennes, une région toute particulière pour la recherche des bois, ou la chasse aussi également.
Ok. Eh bien, merci pour ces enseignements. du coup, le cerf, oui, où est-ce qu'on le trouve? Parce que pour nous, c'est un animal forestier. Mais en fait, il y a 500 000 ans, c'était un animal de milieu ouvert, plutôt de steppe. Et en fait, avec les activités humaines, les zones cultivées, petit à petit, il s'est réfugié plutôt dans les forêts. Voilà, mais ça, c'était il y a 500 000 ans. Aujourd'hui, c'est bien un animal forestier. Et on le trouve plutôt dans les sous-bois, dans les futaies, qui sont plutôt dégagées. Et puis, dans les zones de gagnage, c'est-à-dire là où il y a eu des coupes rases, les clairières, les plantations, les pare-feux, voilà. Et on le trouve également quand même dans les zones de couvert dense parce qu'il s'y abrite, il s'y refuge aussi, voilà. Donc c'est un animal plutôt à l'origine d'altitude, mais en Cévennes aujourd'hui, sur nos territoires de charte forestière, on le trouve à toutes les altitudes. Et aux alentours, on le trouve, sauf erreur, Aymeric, tu diras, plutôt aux alentours de 1000 mètres d'altitude, c'est là où il est le plus présent. Et notamment sur le massif de l'Aigoual, aujourd'hui, c'est là où il est vraiment très présent. Mais comme on a dit, il s'est étendu un peu partout. Et hier, sur l'Écosse, il n'était pas très présent. Mais aujourd'hui, sauf erreur, il apparaît maintenant. Et en fait, le cerf, donc, il a disparu à un moment donné de l'histoire, là, de l'histoire contemporaine. Dans les années 70, il était en déclin. Du coup, il a bénéficié en fait d'une politique de réintroduction, et notamment en Cévennes et en Lozère, dès les années 60, parce que après la Deuxième Guerre mondiale, on le chassait, hein, parce que c'était bien sûr. Et voilà, ouais. pour se nourrir. Et donc, ce grand gibier là, avait disparu. Et donc, le Conservatoire des eaux et des forêts, le Parc national, la Fédération de chasseurs ont œuvré pour sa réintroduction, pour sauvegarder donc cet animal, cette biodiversité. Et aujourd'hui, en Cévennes, on a l'une des plus belles populations de France. Voilà, donc la politique a bien marché, avec d'autres enjeux qu'on va aborder tout à l'heure. Et donc, on le trouve surtout dans les forêts de feuillus, et dans les zones régénération d'arbres. Et on peut donc retrouver sur le site, c'est l'occasion d'en parler, le site Biodiff Cévennes du Parc National, toutes les observations qu'il y a sur les cerfs. Alors bien sûr, le but, c'est pas de vous donner cette information-là pour dire, tiens, il y a du cerf à tel endroit. Un animal sauvage se déplace, n'est-ce pas?
Ah bon?
Un peu comme nous. Mais c'est surtout pour vous parler de cet observatoire où vous trouvez, la faune, la flore du parc national. Et si vous voulez l'enrichir aussi, c'est possible. Donc c'est http, c'est biodiversité.cévennes-parcnational.fr. On trouve des descriptions de plantes, d'animaux, c'est très intéressant. Et on en profite aussi pour, on vous a parlé donc de la période de Ruth, du cerf, donc le brame du cerf, qui est vraiment très caractéristique, qui amène beaucoup de personnes à vouloir l'écouter, l'observer. Et le Parc National, là aussi, donne 10 conseils pour cette observation en toute quiétude durant le brame. Et je vais les évoquer là, et puis on va demander à Aymeric de nous expliquer un petit peu pourquoi ces règles sont là. Il faut rester à distance. Ensuite, éviter de sortir de piste. Pendant la belle étoile, il y a des recommandations par rapport à la luminosité. Il faut être visible, mais sans déranger. Respecter les règles habituelles, dans les zones cœur du parc. Bien sûr, prévoir des jumelles, évidemment. Et puis, le chien aussi, et avec le cerf, ça fait pas bon ménage. Il y a des règles à observer là aussi. Éviter les odeurs. On oublie le petit parfum quand on va aller voir le brame.
Ouais, le tabac aussi, je crois que ça peut...
On évite la cigarette. Ouais. Complètement. Et on se renseigne aussi sur les actions de chasse en cours pour évoluer tous ensemble en bonne intelligence. On reste discret, bien sûr, et toujours patient. Et Aymeric, peut-être que tu peux nous dire ces règles. Nous en dire un peu plus, nous expliquer pourquoi.
C'est une histoire de partage de la nature, hein. Toutes ces règles, c'est du bon sens. À vrai dire, on devrait à chaque fois qu'on va dans la nature se poser des questions sur notre impact sur la faune sauvage. Et plus on est discret, d'ailleurs, plus on voit de choses en général. C'est ce que je dis moi en premier quand j'emmène des enfants en forêt. C'est si vous continuez à vous chamailler comme vous le faites entre vous, on fera tellement de bruit que tous les animaux de la forêt seront partis très très loin quand on y arrivera. Et moi je trouve que la première qualité, c'est la discrétion, évidemment. Mmh. Et puis après, se munir de tout ce qu'il faut pour observer dans les meilleures conditions et pas chercher à s'approcher au maximum, parce que plus on s'approchera, plus on dérangera. Et plus l'observation ne sera pas déontologique. Ça, c'est quelque chose d'important. Si vous faites des photos magnifiques, mais vous avez perturbé l'animal, votre photo, elle a beau être très belle, déontologiquement parlant, elle est pas belle. C'est quelque chose qui est important dans la photographie animalière. C'est la déontologie des photos qu'on fait et des souvenirs qu'on emporte. Il faut absolument pas qu'ils soient nuisibles ou dérangeants à l'espèce qu'on observe. Voilà, ça c'est le grand principe. Mais comme j'en avais déjà émis pour les sorties en champignons, c'est rester le plus discret sur notre venue sur le terrain. Donc on laisse pas de déchets et on retourne pas tous les champignons. Donc pareil, quand on va au bois de cerf, la discrétion, la, dis- la discrétion est vraiment la qualité première pour les belles observations.
Et en parlant de champis, ça nous permet de glisser sur le régime alimentaire du cerf, Margot.
Et ouais, c'est intéressant d'évoquer ce paramètre-là, parce que ça peut avoir des conséquences sur notamment la forêt. On l'évoquera un petit peu plus tard. Donc en fait, le cerf, il cherche quand même préférentiellement des espèces de lumière. Hein, donc, mais il peut s'adapter fortement selon la saison et le milieu dans lequel il vit. Et en fait, il faut savoir quand même que ses besoins alimentaires, ils sont assez variables au cours de l'année. Donc ils vont être très importants au printemps et en été, donc à la période de repousse des bois, on l'a déjà évoqué, mais aussi pour les périodes de fin de gestation et de lactation pour les femelles. Et en hiver, à l'inverse, les besoins sont un peu plus limités. Et du coup, il a la possibilité de se nourrir avec plein de choses. Il aime beaucoup les herbacées quand il y en a, mais aussi les souligneux, donc tout ce qu'on peut retrouver en forêt, les ronces, les framboisiers, les myrtilles, c'est aussi quelque chose qui l'intéresse. Il peut se nourrir de feuilles d'arbres, donc on peut citer par exemple le hêtre, les érables ou le chêne, mais aussi de rameaux de résineux, épicéa, pin sylvestre, sapin. Alors voilà, ça c'est juste des exemples. Il peut aussi se rabattre sur les fougères, donc que ça soit les feuilles ou les rhizomes, donc plutôt les parties racinaires, mais aussi les champignons, les fruits, donc les châtaignes et les glands. Et puis quand il a pas beaucoup à manger, il peut aussi se nourrir d'écorce d'arbres. Virginie nous en parlera un petit peu plus tard peut-être. Mmh. Et également de cultures agricoles quand les espaces boisés sont proches des champs qui peuvent être cultivés. Et du coup, en termes de quantité absorbée, un adulte, il peut consommer jusqu'à 10 à 15 kg par jour. Donc, on se rend bien compte qu'un individu mange beaucoup. Donc, beaucoup d'individus mangent énormément. Voilà. Logiquement. Et on voulait aussi vous parler, en fait, du cerf dans l'histoire et la culture. Parce que c'est du coup un animal qui est présent sur le territoire depuis longtemps. Il y a de nombreuses traditions qui y sont liées. Donc, je ne sais pas si Virginie, tu veux nous en parler un petit peu.
Allons-y, c'est parti. Alors oui, on a parlé du cerf qui était présent il y a 500 000 ans, mais il était présent sous une forme un petit peu différente en fait. On l'appelait le mégacéros.
Ok.
Voilà, et donc c'était un cerf, hein, ok. Et en fait la particularité c'est qu'il avait des bois encore plus grands et un peu plats. Enfin voilà, et du coup c'est, bon, il s'est adapté, hein, il a des bois aujourd'hui toujours volumineux mais quand même moins grands. Et donc voilà, le mégacéros est éteint il y a 7000 ans à peu près, pour donner après une nouvelle espèce, dont le cerf. Et alors le cerf, eh bien, on l'a toujours retrouvé comme un symbole de la royauté, de l'aristocratie, de la longévité, de la virilité, et de guide aussi, voilà. Et c'est vrai que sa beauté, notamment grâce à ses bois, on a toujours fait un animal plutôt apprécié. Donc on le représente souvent de manière positive, il est de bon augure, voilà. À une certaine époque aussi, il était synonyme de pourvoyeur de richesses. Voilà, chez les Gallo-Romains, on peut retrouver des représentations sur des stèles où il crache de la monnaie.
Ah ouais, ok.
voilà. Donc, c'est varié. Et on s'y est toujours intéressé depuis la préhistoire. On retrouve la représentation du cerf dans des grottes. Hein, par exemple, la grotte de Lascaux, très connue, il y est, bien sûr. Dans la grotte qui est plus proche de chez nous, en Cévennes, qui est l'une quand même des plus anciennes au monde, on peut le dire.
Ouais.
La grotte Chauvet, moins 36 000 ans.
Ah ouais.
On le retrouve représenté, bien sûr, mais sous sa forme ancienne, le mégacéros. Donc on le retrouve aussi dans les écrits antiques, à l'époque du Moyen-Âge, très très présent, très apprécié à l'époque du Moyen-Âge. La religion chrétienne aussi l'a beaucoup mis en avant en tant que messager de Dieu. Est souvent représenté d'ailleurs avec une croix du Christ entre les bois. Voilà. Okay. Il est signe aussi de protection. Et là, par exemple, on peut prendre aussi de la haute culture. on le retrouve dans la comptine, le grand cerf. Cerf, ouvre-moi. Ah, tu vas chanter, Margot.
Non, ça va, je te laisse.
Voilà. Et donc, voilà, c'est le cerf qui vient aider son ami le lapin. Mm-hmm. Hein. Voilà, et puis on peut le retrouver aussi dans Harry Potter, Hein, le Patronus, cette forme magique qui vient lutter contre les méchants détraqueurs, voilà, et donc bien le héros de l'histoire, son Patronus, c'est un cerf.
Yes.
Voilà, et le Patronus de aussi voilà de son père, pareil, un cerf, voilà.
Donc, en fait, de l'antiquité à la pop culture, le cerf est absolument
il est partout.
Incroyable.
Ah oui. Et du coup, ces cornes, voilà, ben, elles sont tellement magiques et puissantes qu'elles ont un pouvoir aphrodisiaque, évidemment. Bon, ça, c'est peut-être moins certain, hein, quand même. On demande à ce que vous appelez Radio Barthes si ça a marché sur vous. Mais...
On veut des témoignages voilà. Pour la prochaine émission. N'hésitez pas.
Voilà, et donc il paraîtrait même que réduite en poudre, elle améliore la virilité.
Incroyable.
Voilà.
Très bien.
Voilà.
Eh bien, merci pour toutes ces contes et légendes sur le cerf.
Mais c'était gratuit.
On vous propose une petite pause musicale en écoutant les Pixies avec leur titre Caribou.
Voilà dans Palabre en forêt sur l'émission sur le cerf 107FM. Et comme dit Aymeric, voilà, le chanteur des Pixies avait nous a fait un bon brame qui est un gros chat dans le gosier. Et maintenant, on va passer aux relations entre le cerf et les chasseurs, Margot.
Alors, effectivement, le cerf est une espèce qui est chassable. Parce que parfois, la surdensité de certains ongulés, notamment le cerf, peut occasionner des dégâts forestiers, on va l'évoquer après, et aussi agricoles. Et du coup, en fait, une bonne gestion de l'espèce Ça nécessite un suivi de l'évolution des populations avec différents indicateurs biologiques qui sont mesurés. Et ce qui amène à des plans de chasse. Donc le plan de chasse, il est obligatoire pour le cerf. Et en fait, c'est grâce au suivi des populations qu'on va pouvoir déterminer le nombre d'animaux qui pourront être prélevés dans le milieu pour avoir au final un bon équilibre du coup entre les populations et l'état des milieux. Donc les objectifs du plan de chasse, c'est ce que je disais un petit peu. Donc en fait, il assure le développement durable des populations, il préserve les habitats en conciliant les différents intérêts, donc que ça soit agricole, forestier et cynégétique. Donc c'est ce qui est lié à la chasse. Donc concrètement, c'est pour un territoire donné, on va avoir un quota maximal donc pour pas abîmer les populations et minimal pour que le milieu et l'habitat ne soient pas dégradés, d'individus à prélever pour garantir une bonne gestion d'équilibre des différents éléments déjà évoqués. Et alors en fait, sur le territoire, enfin au niveau national, c'est partout pareil, c'est le préfet qui va fixer un nombre maximal et minimal d'animaux pouvant être prélevés. Il se base sur l'avis d'une commission qui s'appelle la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Et puis ensuite, c'est la fédération départementale de chasse qui attribue à chaque société de chasse donc du département, qui se découpe du coup le département en territoire, qui va attribuer le nombre d'animaux qui pourraient être prélevés. Et donc les chasseurs, au final, achètent ce qu'on appelle les bracelets pour pouvoir prélever les animaux. Donc ça, c'est valable pour le cerf, mais également pour d'autres espèces qui sont donc sous obligation de plan de chasse. Voilà. On n'est pas des expertes de la chasse, mais si vous avez des questions, vous pouvez vous référer à votre fédération départementale de chasse. Voilà.
Et du coup, tu viens de parler quelque part d'équilibre. Et effectivement, aujourd'hui, en fait, c'est un vrai sujet forestier, la présence, la forte présence du cerf, la surdensité comme tu en as parlé, parce qu'autant il était en voie de disparition, autant aujourd'hui, il est en surpopulation. Et actuellement, les forestiers et dans les projets de plantation, de reboisement, de régénération naturelle, c'est-à-dire de la régénération des forêts, les bébés arbres, hein, pour résumer, c'est problématique. Et donc et il existe en fait en forêt un équilibre agro-silvo-cynégétique. C'est défini dans le code forestier, c'est défini dans le code de l'environnement. Et en gros, ça nous dit il faut préserver les animaux sauvages, mais il faut préserver l'écosystème forestier aussi. Donc, il y a des gestes, des pratiques à avoir, donc comme la chasse. Et donc il faut aussi que les forêts soient accueillantes pour le gibier également, hein, ça reste toujours un bon milieu de vie. Mais voilà, il y a un équilibre à trouver. Et là, on a peut-être un peu plus de problématiques avec le sanglier en Cévennes ou le chevreuil, mais le cerf c'est quand même aussi de plus en plus présent.
Il peut intervenir. Enfin, quels peuvent être les dégâts sur la forêt et les arbres?
Parlons-en. Il y en a plusieurs et qui sont différents selon la période de l'année. Voilà. Alors, on a par exemple l'abrutissement. Hein, ça, c'est quand le cerf vient grignoter les jeunes plants feuillus et résineux. Plutôt feuillus pendant l'été, résineux pendant l'hiver. Donc ça, c'est les jeunes pousses ou les rameaux. On a aussi après le frottis de frayures. Donc ça, c'est plutôt de juillet à septembre. Ça se pratique aussi sur les jeunes plants de feuillus et de résineux. C'est les blessures que font les cervidés. Tu en as parlé tout à l'heure en période de rute, normalement, avec les bois. Voilà, parce qu'ils cherchent à enlever le velours. Voilà. Ensuite, on a le frottis de rut, là qu'on est en plein dedans, hein, de août à octobre. Ça concerne les jeunes plants feuillus et résineux. Et là, ce sont des blessures qui sont faites lorsqu'ils marquent leur territoire, en fait. Et il y a l'écorçage. On avait promis tout à l'heure d'en parler. Et donc, c'est pareil, c'est sur feuillus et résineux qui ont plutôt l'écorce fine, qui sont plutôt âgés, des jeunes arbres, on va dire, hein, 30-40 ans. 30-40 ans, c'est jeune pour les dames. Ne souris pas, Margot. Et là, c'est le cerf qui vient détacher avec ses dents des parties de l'écorce pour la manger.
Voilà. Et souvent, il me semble que quand le cerf commence à écorcer les arbres, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'autres ressources à manger. C'est vrai. Du coup, qu'il se rabat un peu sur l'écorce du coup, de ces arbres-là.
Donc, ça veut dire pas bon signe. Et voilà, donc aujourd'hui, effectivement, en Cévennes, la pression, pas que du cerf, hein, il y a le sanglier, le chevreuil, des gibiers sur la régénération des arbres, elle est telle qu'aujourd'hui, il faut une protection systématique pour les jeunes plants, pour les jeunes arbres. Et donc, quand on en arrive là, c'est que l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, il est rompu. Voilà. Et en fait, pourquoi c'est embêtant quand même? Parce que ça veut dire qu'en fait, pour les forêts, le but d'un forestier, c'est de régénérer la forêt. C'est qu'il y ait toujours des arbres et une diversité d'arbres. Et donc, du coup, là, si la régénération elle est dégradée, ça peut avoir des conséquences sur le long terme. Le temps que la forêt se régénère, parce que la forêt se régénère tout le temps, mais plus ou moins rapidement. Et avec ce qu'on subit aussi dans le dérèglement climatique, ça pose souci. Et donc, autant une population d'animaux peut se réajuster en quelques années, la forêt, il faut plusieurs décennies. Voilà. Donc, c'est pour ça que la préservation de la forêt est quand même une priorité. Et donc, il y a plusieurs guides qui viennent nous donner des conseils aussi sur les pratiques à avoir en termes de sylviculture pour faire en sorte d'avoir un équilibre sylvo-cynégétique. Notamment rédigé par le Centre Régional de la Propriété Forestière. On a plusieurs guides là-dessus. Donc, il recommande de gérer les forêts en mosaïque, c'est-à-dire d'avoir une alternance de peuplement, un petit peu du taillis, des forêts, des futaies, des lisières, de l'étage, des milieux humides, des milieux ouverts, de clairières. Comme ça, on peut permettre de bien accueillir le gibier. Et puis, on peut étaler les zones de pression, quoi, en gros.
Ok, donc en fait, les conseils qui peuvent être donnés pour la bonne gestion du gibier, c'est les mêmes conseils qu'on retrouve pour la résilience face au changement climatique, qu'on retrouve pour l'accueil de la biodiversité.
Totalement.
Donc c'est magnifique.
Voilà.
C'est parfait.
On revient sur nos pattes, c'est ça. Et voilà, alors pour le parc national, il y a un suivi particulier pour la régulation du cerf. Et le parc a notamment créé en 2017 un observatoire de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. Parce que justement, pour avoir des pratiques, et notamment un prix de chasse qui soit adéquate pour réguler les populations, il faut un état des lieux, il faut connaître où il va, il faut connaître ce qu'ils font. Parce que, voilà. Et donc, on peut signaler en fait les dégâts en forêt. Comme on en vient d'en parler, maintenant vous êtes incollable, l'abrutissement, le frottis de feuillure, frottis de rut, écorçage. Et on peut le signaler donc sur les communes de la zone cœur qui ont été un petit peu élargies. Il y a le périmètre, on va vous donner le site internet. Et donc ça concerne quasi toutes les communes sur ta charte forestière, Margot. Par contre, sur la charte forestière Pays Cévennes, il n'y a que 3 communes concernées. Concoul, Génolec, Chambourigo. Et donc le site, c'est OEASC pour l'Observatoire de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique .cévennes-parcnationalattaché.net.
Et bien voilà tout ce qu'on voulait vous dire sur le cerf, quelques éléments de contexte, de description. Et maintenant, on vous propose de passer à la célèbre chronique de Aymeric, Plantes et animaux des bois.
Plantes et animaux des bois.
Un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume.
Il y a des hirondelles, des chauves-souris, il y a pas mal d'amphibiens.
Et heureux, Aymeric.
Oui, c'est déjà, je trouve, une grande chronique sur un animal de bois, le travail d'avoir évoqué le cerf. Et du coup, je vais faire une petite chronique complètement en digression par rapport à ce qu'on a fait, mais enfin, il y a toujours un lien. Et notamment le lien par rapport aux plantes qui sont consommées par les cervidés, et notamment les cerfs, à différentes périodes de l'année. Je sais pas si vous êtes déjà baladé à la fin de l'hiver, au début du printemps. On voit dans les forêts un certain nombre de plantes qui sont abruties, mais qui sont des plantes très toxiques parfois. Et les bords, par exemple, peuvent être grignotés, probablement par des cervidés. Et l'élébore est une plante extrêmement toxique, il vaut mieux pas s'en faire à des salades. Et c'est pareil pour la verâtre. On va avoir des périodes de l'année où la verâtre, qui est une plante qui ressemble à la gentiane jaune et qui est également très toxique, peut être abrutie par les cervidés.
Et eux, ça leur fait rien.
C'est des pratiques assez étonnantes, mais qui doivent correspondre en fait aux propriétés vétérinaires, du coup, puisqu'on ne peut pas parler de médicinale, mais aux propriétés de ces plantes qui sont, pour certaines, des purgatives très efficaces.
C'est la détox.
Et à un moment donné, notamment à la sortie de l'hiver, les animaux ont un besoin naturel de se purger. Et ils vont consommer un certain nombre de plantes qui vont les aider à ça. Et la fougère, par exemple, elle est très souvent consommée. Et depuis les hommes préhistoriques, la fougère, les propriétés sont connues comme un excellent vermifuge. Et donc, les pratiques du cerf dans la forêt, les plantes qu'il choisit, correspondent aussi à ses besoins. Si au printemps il a besoin de bourgeons, c'est qu'il a besoin d'énergie pour reconstituer ses bois, et donc il va grignoter tous les bourgeons qui seront à sa disposition jusqu'à à s'en rendre malade. On connaît des histoires de cerfs ou de chevreuils qui sont presque sous quand ils surconsomment certains bourgeons dans des forêts justement pas équilibrées, où il va mettre main basse sur une seule plante qui est disponible, et jusqu'à s'en créer des déséquilibres et devenir un peu fou. Ça, c'est arrivé. Et tout ça pour vous parler donc de plantes qui consomment, jusqu'à consommer des plantes toxiques, et notamment l'arôme peut éventuellement faire partie de son régime au printemps, mais de manière très ponctuelle, parce que l'arôme est un vomitif extrêmement efficace, mais avec beaucoup de complications. Donc je vous déconseille de toucher à l'arôme sauvage. On en connaît deux dans les Cévennes. Il y a l'arôme d'Italie qui va plutôt être sur le piémont cévenol, plutôt dans les bords des rivières, sur des substrats plutôt calcaires, et l'arôme qui est plutôt en montagne, dans les forêts de feuillus du Mont Lozère ou de l'Aigoile, l'arôme tacheté, qu'on appelle aussi le gouet. Alors je voulais évoquer cette plante parce qu'elle est très curieuse.
Elle ressemble à quoi, s'il te plaît?
Alors, les arômes, vous avez tous eu dans le jardin, c'est une forme de fleur tout à fait particulière. Les feuilles sont en forme de fer de lance. Chez l'arôme d'Italie, c'est vraiment une pointe très marquée, puis deux oreilles très pointues derrière. Et chez l'arôme tachetée, tout ça est très arrondi, avec parfois une tache sombre au milieu de la feuille. Et la fleur correspond pas du tout à une fleur classique. Il y a pas vraiment de pétales. C'est une espèce on appelle ça un spadis, qui porte les organes mâles et femelles. Mmh. Donc une espèce de tige, si vous voulez, au milieu de la fleur, et qui est entourée d'un spat, une espèce de grande feuille, parfois colorée. C'est souvent vert chez nos plantes autochtones. C'est blanc chez l'arôme des jardins. Et une espèce de grande feuille qui enroule ce spadis, là, l'organe mâle et femelle de la fleur. Et donc cet arôme, sa grande propriété, son originalité qui est peut-être méconnue, c'est qu'au moment de la floraison, cet arôme est capable de produire de la chaleur. Mais pas n'importe quelle chaleur, c'est vraiment une chaleur importante qui peut dépasser 30-35 degrés. Et ce qui fait qu'on peut, dans certaines conditions très particulières, à un endroit où on sait qu'il y a des arômes, s'il a neigé récemment, que ça coïncide avec la floraison de la plante, et bien vous allez voir la neige qui fond autour des arômes tellement ils dégagent de chaleur.
Incroyable. Incroyable.
Ouais, c'est assez étonnant. Et pourquoi ce dégagement de chaleur? Ben tout simplement pour, comme il fleurit très tôt l'arôme, notamment l'arôme, il fleurit au mois de mars, avril, jusque début mai, donc à des périodes où il fait relativement froid, et où les odeurs ne voyagent pas bien. Et le fait d'augmenter cette chaleur a un effet très efficace sur le dégagement de son odeur, qui est une odeur pas très ragoûtante, hein, puisque c'est l'odeur plutôt d'excréments, de bouse, et qui attire une variété très particulière de mouches, qu'on appelle un psychoda, pour être très précis. Et une mouche qui vient polliniser l'arôme. Et en fait, l'odeur, il est attiré par l'odeur, il vient se poser sur l'espèce de tube qu'on appelle le spadis, qui est la partie femelle, qui n'est pas encore disponible pour lui. Et il va descendre dans la plante et se faire coincer sous un entrelac, un labyrinthe de poils, qui va l'empêcher de sortir, et c'est là que les étamines vont commencer à s'ouvrir, quasiment 24 heures après être rentré dans le tube de la corolle de l'arôme, l'insecte se fait barbouiller de pollen, et à ce moment-là, il va pouvoir être libéré petit à petit et partir sur une autre plante et faire le même trafic. Et quand il arrive sur une autre plante, il va pouvoir déposer le pollen qu'il a embarqué. C'est cette espèce de stratégie originale qui permet à l'arôme d'être toujours fécondé de manière croisée. Il ne supporte pas l'auto-fécondation. Yeah. Une originalité que je voulais évoquer, une plante qui fournit de la chaleur au tout début du printemps. Il faudra vous-même tester la prochaine fois que vous verrez un arôme. Au moment de sa floraison, vous mettez un thermomètre, il peut monter sa température d'une manière très, très remarquable.
On prévoira le thermomètre pendant les balades.
Voilà. Et ben c'est tout, parce qu'on a déjà beaucoup parlé de plantes, et il y aurait eu beaucoup de plantes à évoquer, hein, qui ont un lien plutôt sur les formes, hein, les plantains cornes de cerf que tout le monde peut-être connaît, mais qui a une forme de feuilles en forme de cornes de cerf. La langue de cerf aussi, alors ça c'est le dernier point sur le lien entre le nom et la plante. La langue de cerf est une très grande fougère, en fait, qui rappelle un petit peu la taille remarquable, en fait, des langues de cerf. Alors, c'est pas aussi remarquable que la langue de girafe, qui fait partie un peu des records au niveau des mammifères, mais la langue de cerf est relativement longue, et ça lui permet d'être très adroit, comme la girafe qui va chercher des feuilles au milieu des acacias très épineux. Et ben le cerf est capable d'une certaine délicatesse quand il prélève avec sa longue langue les feuilles au milieu des ronces, par exemple. Il va chercher les bourgeons les plus tendres sans se piquer la langue. Voilà, la langue de cerf, ça termine un peu ce petit cette évocation des plantes qui ont un lien avec le cerf. Et ben pour moi c'est terminé, et à bientôt, j'espère.
Et bien sûr.
Ouais, merci Aymeric.
En studio. Merci.
Et bien voilà, c'est tout pour cette émission de Palabres en forêt. On espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées de sujets d'émission, n'hésitez pas à nous en faire part sur la boîte mail de Radio Barthas, qui est contact@radiobarthas.net. Voilà, à bientôt sur 107FM. Salut Virginie.
À bientôt Margot.
Salut à tout le monde.
À bientôt.
Palabres
en forêt,
l'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts sévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Barthas
107 FM. 36.